Mécanique du complotisme, la Révolution française à la croisée des complots. Épisode 3, c'est la faute à Voltaire et aux francs-maçons. Avec Antoine Lilti, historien. Réel ou supposé, les complots ont rythmé la Révolution française qui a été un bouleversement sans précédent dans l'histoire de France et de l'Europe. En 1789, personne ne pouvait prédire l'ampleur de ce mouvement, dont on estime généralement qu'il prend fin en 1799 avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte. Un homme, pourtant, dès la fin du XVIIIe siècle, va prétendre le contraire et s'appliquer à le démontrer. Que la Révolution tout entière était prévue, qu'elle était le cœur d'un gigantesque complot. Cette thèse apparaît dans un livre intitulé « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Son auteur est un ecclésiastique. Il s'appelle Augustin Baruel.
Augustin Baruel, c'est un ancien jésuite, qui est aussi un écrivain qui, avant la Révolution, se fait déjà connaître par des écrits
Antoine Lilti.
Assez virulents d'hostilité aux philosophes, aux encyclopédistes, Voltaire, etc. Et qui, sous la Révolution, va être très rapidement hostile, notamment à la constitution civile du clergé, le fait que le clergé doit prêter allégeance à la Révolution. Et surtout, donc, il est extrêmement connu, Baruel, pour un livre qu'il publie entre 1797 et 1799, qui sont ses mémoires sur le jacobinisme, où vous trouvez de manière presque chimiquement pure la vision complotiste de la Révolution. Donc non pas une vision qui dénoncerait, comme le faisaient les révolutionnaires, des complots contre-révolutionnaires, mais au contraire, une interprétation selon laquelle toute la Révolution est le résultat de complots ourdis de longue main, depuis longtemps, et qui ont été entièrement prévus dans tous ses détails et dans tous ses développements.
Ce livre paraît donc en 5 volumes à partir de 1797. La Révolution n'est pas terminée en France, et il pourrait être dangereux de faire circuler de telles idées. C'est donc depuis l'étranger que ces choses sont orchestrées. L'auteur est en Angleterre, l'éditeur en Allemagne. Mais le livre circule clandestinement, sous le manteau, à Paris et dans les départements français. En voici les premières lignes.
Dans cette révolution française, tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué. Tout a été préparé, amené, par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations longtemps ourdies dans des sociétés secrètes et qui ont su choisir et hâter les moments propices au complot.
Le complot dénoncé par l'abbé Baruel est bien construit, bien préparé. Sa finalité est de refonder un nouvel ordre mondial et pour cela de détruire l'ordre existant. Pour Baruel, les comploteurs ont 3 buts qui sont aussi 3 étapes. Détruire la religion, détruire la monarchie, détruire l'ordre social tout entier. Et ces 3 buts, ces 3 étapes, superposées comme les 3 étages d'une fusée, sont pris en charge par différents comploteurs. Première étape donc, la destruction de la religion, ce que Baruel appelle la ruine de l'autel. Dans les faits, la Révolution française a bien été, pour une part, dirigée contre la religion et l'Église catholique. La constitution civile du clergé, qui faisait des prêtres des fonctionnaires soumis à l'autorité de l'État, l'adoption du calendrier républicain, la création d'un culte de l'être suprême, un culte laïque, sont autant de coups portés à l'autorité de l'Église, sans compter les destructions ou les dégradations d'édifices religieux. Mais pour Baruel, donc, tout cela avait été médité, pensé, prévu depuis quelques dizaines d'années par ceux qu'il appelle les philosophes et qu'on appelle aujourd'hui les Lumières.
Vers le milieu du siècle où nous vivons, 3 hommes se rencontrèrent. Tous 3 pénétrés d'une profonde haine contre le christianisme. Ces 3 hommes étaient Voltaire, D'Alembert et Frédéric II, roi de Prusse. Voltaire haïssait la religion parce qu'il jalousait son auteur et tous ceux dont elle a fait la gloire. D'Alembert parce que son cœur froid ne pouvait rien aimer. Frédéric parce qu'il ne l'avait jamais connu que par ses ennemis. Il faut à ces 3 hommes en ajouter un 4e. Celui-ci, appelé Diderot, haïssait la religion parce qu'il était fou de la nature, parce que, dans son enthousiasme pour le chaos de ses idées, il aimait mieux se bâtir des chimères et se forger lui-même ses mystères que soumettre sa foi au Dieu de l'Évangile.
La raison pour laquelle il associe d'Alembert, Voltaire, Diderot, Frédéric II, c'est leur hostilité à l'Église. Hein. Et donc, il va effectivement partir de quelque chose qui est exact, c'est-à-dire le caractère militant des philosophes contre l'Église catholique, contre les jésuites, contre la puissance sociale, religieuse, politique de l'Église. Et notamment, donc là, effectivement, il s'appuie sur toute une série de textes, d'échanges, de correspondances. Alors, c'est intéressant parce que c'est un moment où justement la correspondance de Voltaire a été publiée, notamment sa correspondance avec Frédéric II.
Que me dit-on ? Que vous voulez détruire mon Église ? Car elle vous gêne la vue ? Du reste, vous ne croyez pas en Dieu ?
Mais si j'y crois. Je crois en Dieu, curé, ne vous en déplaise, mais je ne crois pas dans des prêtres qui nous volent jusqu'à notre dernier soupir.
Mais évidemment, là où il extrapole complètement, c'est en en faisant un complot révolutionnaire, puisque Voltaire, encore moins Frédéric II, ne sont des révolutionnaires. Donc, c'est là qu'on est vraiment au cœur d'une lecture complotiste, c'est-à-dire de prétendre s'appuyer sur des documents, sur des preuves, et à partir de là, extrapoler de manière un peu délirante, comme si effectivement les philosophes avaient prévu et organisé une subversion complète de l'ordre social et politique, alors que la plupart d'entre eux étaient sur certains plans, aussi bien social que parfois moral ou politique, tranquillement conservateurs.
Pour Baruel, aucun doute. Voltaire et les autres sont des comploteurs. Ils organisaient et préparaient depuis des années la chute de la religion catholique qui est la première étape de la refondation d'un nouvel ordre. Et tant pis si les philosophes des Lumières étaient conservateurs, ou en tout cas pas opposés à la monarchie. D'autres l'étaient. D'autres complotaient pour la ruine du trône. Et ceux-là d'ailleurs ont réussi. Le 10 août 1792, des sans-culottes se sont emparés du palais des Tuileries et ont jeté en prison Louis XVI et sa famille. La monarchie française vieille de près d'un millénaire est abolie. L'abbé Baruel raconte les journées qui ont suivi et désigne les vrais coupables.
Enfin nous y voilà. La France entière n'est plus qu'une grande loge. Les Français sont tous francs-maçons et l'univers entier le sera bientôt comme nous. J'ai vu les maçons, jusqu'alors les plus réservés, répondre désormais sans le moindre déguisement « Oui, enfin, voilà le grand objet de la franc-maçonnerie rempli ».
La franc-maçonnerie, voilà le vrai coupable selon l'abbé Baruel. Mais sur quoi se fonde-t-il ? La franc-maçonnerie est née en Écosse et s'est développée en Grande-Bretagne au long du XVIIe siècle. Elle arrive en France au début du XVIIIe et connaît un certain succès. La Grande Loge de France est fondée en 1738. Condamnée par le pape, la franc-maçonnerie jouit en France d'une certaine bienveillance de la part du pouvoir royal. Elle compte d'ailleurs dans ses rangs des catholiques, des prêtres et des nobles. À la fin des années 1780, on compte plus de 1000 loges en France. Des personnages qui joueront un rôle central dans la Révolution en sont membres, Mirabeau, Lafayette ou Rouget de Lisle par exemple, qui écrira la Marseillaise.
La franc-maçonnerie n'avait pas du tout d'unité idéologique. Vous avez dans la franc-maçonnerie des gens qui par ailleurs ont été ensuite tout à fait hostiles à la Révolution. Et il n'y avait pas non plus d'unité en réalité sociologique comme espace de sociabilité au sens où il y avait des loges franc-maçonnes qui insistaient plutôt sur effectivement des phénomènes d'initiation mystique, par exemple. D'autres, au contraire, étaient avant tout des lieux de divertissement, de sociabilité mondaine, des lieux où on se retrouvait pour des concerts, pour des dîners. Donc, en réalité, la franc-maçonnerie a un énorme succès au XVIIIe siècle, mais en réalité, c'était d'abord un espace de sociabilité des élites.
Pour Baruel, tous les francs-maçons ne sont pas coupables de la même manière. Les plus initiés et les plus comploteurs sont ceux qui ont organisé le noyautage de la franc-maçonnerie par une autre société secrète, bien plus jeune et bien plus confidentielle. C'est le troisième étage de la fusée. Au cœur du complot franc-maçon, Baruel dénonce une société qui est baptisée les Illuminés ou Illuminati.
Dans le printemps de l'année 1776, il se forma à Ingolstadt, ville de Bavière célèbre par son université, une société qui, dans ses commencements, n'était composée que de quelques professeurs de collège et d'étudiants, et semblait être une imitation de l'ordre des francs-maçons dont il y a plusieurs associations dans d'autres académies d'Allemagne. Le fondateur de cette société ci-dessus mentionnée était un nommé Adam Weishaupt, professeur à Ingolstadt, et ses membres furent appelés « Illuminés ». L'objet de cette institution était le renversement de la religion chrétienne et des gouvernements existants.
Les Illuminés de Bavière, c'est au fond c'est un mouvement qui est relativement mineur, qui n'a jamais rassemblé beaucoup de monde et qui a duré même pas une dizaine d'années, qui recrute parmi des membres des loges maçonniques, et là qui pour le coup, ça c'est vrai, a un programme, disons, idéologique assez radical, notamment de lutte contre les jésuites, de lutte contre le poids de l'Église. Et puis au début des années 1780, elle est interdite. Et donc finalement à la fois elle disparaît comme institution, parce qu'elle est pourchassée, et donc elle a très peu d'influence, et puis certains de ses représentants vont venir à Paris à la toute fin des années 1780 pour rencontrer un certain nombre de dignitaires, notamment maçonniques français. C'est ça qui fait la force là, de la lecture complotiste, c'est qu'elle n'est pas une pure fiction complètement fantasmée, mais à partir d'un substrat historique, vous avez un mouvement qui est à la fois lié à la franc-maçonnerie et avec des liens très forts avec, disons, les courants les plus radicaux de la philosophie des Lumières. Vous avez des liens qui sont documentés, donc qui sont identifiables entre l'Allemagne et la France à la veille de la Révolution. À partir de là, Baruel va construire une interprétation totalement fantasmée du rôle de ces Illuminés qui n'a aucun rapport en réalité avec ce qu'a été leur influence et ce qu'a été leur rôle sous la Révolution.
Parmi ces penseurs qui ont repris les thèses de l'abbé Baruel, on trouve Maurice Talmer, écrivain, journaliste, proche de l'Action française, qui publie en 1904 un livre intitulé « La franc-maçonnerie et la Révolution française ». Après de longs développements, il y pointe notamment un certain nombre de coïncidences pour le moins troublantes.
On sait que la première manifestation révolutionnaire du tiers-État, en 1789, fut de s'ériger à Versailles en Assemblée nationale et de déclarer la patrie en danger. Or, en 1771, à la suite de graves crises internes, la maçonnerie se déclare en danger. La grande assemblée annuelle des francs-maçons s'appelle le Convent et la plus fameuse assemblée révolutionnaire s'appellera la Convention.
Ces coïncidences, qui semblent très légères, pourraient discréditer Maurice Talmer. Aucun historien ne s'appuie d'ailleurs sur ses travaux. Mais ses écrits sont pourtant réédités par Contre-Culture, la maison d'édition d'Alain Soral.
Ce petit livre est intéressant parce qu'il y a beaucoup de délires et de questions posées sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, le rôle notamment des Illuminati. Et ce livre, très sérieux, permet de rétablir une certaine chronologie, une certaine vérité.
Baruel a réussi à produire cette articulation complot et franc-maçonnerie, qu'elle n'est pas du tout de soi. L'idée que la franc-maçonnerie est un espace qui vise au fond à subvertir l'ensemble de l'ordre social, politique, avec des individus extrêmement conscients de ce qu'ils font, qui construisent des réseaux et qui utilisent ces réseaux pour agir à la fois secrètement et efficacement dans la société. Et donc ça, ce modèle, c'est un modèle qui va ressurgir très fortement autour de ce qu'on appelle le complot maçonnique et plus tard le complot judéo-maçonnique à partir de la fin du 19e siècle et qui va avoir malheureusement le succès qu'on connaît.
Moment fondateur de notre histoire, la Révolution française peut donc servir de laboratoire à ceux qui s'intéressent aux mécaniques du complotisme. Tout entière rythmée par des accusations de complot, elle a été envisagée comme étant elle-même le fruit d'un complot. Ce concept de complot maçonnique puis judéo-maçonnique sera un leitmotiv du discours de l'extrême droite au long du 19e et du 20e siècle. Il refleurira à différents moments critiques de l'histoire de France, comme par exemple l'affaire Dreyfus ou le régime de Vichy. Moment fondateur de notre histoire, la Révolution française est donc bien à la croisée des complots et peut servir de laboratoire à ceux qui s'intéressent aux mécaniques du complotisme.